Radio Bulle 93.6. C'est votre radio de la Genève.
C'est votre radio de la Genève.
Présence du classique, une émission présentée par Patrick Armand.
Chers amis auditeurs, vous écoutez Radio Bulle sur 93.6, la radio de la Genève. Bienvenue dans votre émission Présence du classique, l'émission dédiée à la musique classique présentée par Patrick Armand. L'émission de ce soir va être consacrée à l'un des plus grands génies de toute l'histoire de la musique, Ludwig van Beethoven, avec la prononciation allemande, cependant par commodité ce soir, nous dirons Beethoven. À la simple évocation de son nom, on songe immédiatement à sa surdité. Il est vrai que ce compositeur a été très durement frappé par une affliction qui est absolument terrible pour un compositeur. Ne plus pouvoir entendre sa propre musique, ainsi que les bruits de vie et de la nature. Par contre, pour nous les compositeurs, il est un cas dans l'histoire de la musique. Il démontre indubitablement la puissance intérieure qu'un compositeur possède, sa capacité à produire de la musique sans aucun essai préalable. En effet, comment être bien sûr que l'on a écrit tout ce que l'on voulait, que l'on a bien pensé à tout et qu'il n'y aura aucun souci dans la partition, ni aucune mauvaise surprise à l'exécution de l'œuvre? Car le compositeur écrit de la musique par l'effet de son imagination et de son inspiration. Il entend et voit les sons et les couleurs. Dans l'esprit du compositeur, le son n'est pas seulement quelque chose qui vibre, même si cela pouvait vibrer dans sa tête. C'est une question de couleur. Et le compositeur, oui je le dis, entend en couleur, c'est comme ça que ça se passe. Si je relis mon propos à Beethoven, prenons une œuvre qu'il a composée en étant totalement sourd. Je songe bien évidemment à la 9e symphonie. Comment concevoir un tel chef-d'œuvre avec une telle architecture, une telle complexité, sans le secours d'un piano pour vérifier ses combinaisons sonores ou ses arrangements, et sans avoir un quelconque essai, ne serait-ce qu'au piano, à l'orchestre, pour voir si ce qu'il a écrit correspond bien à ce que l'on va entendre et qu'il veut lui faire entendre. Beethoven compose à l'aide de sa formidable puissance intérieure, il n'y a pas d'autre explication. Beethoven a été profondément meurtri par son infirmité, il est vrai. Les signes précurseurs vont commencer assez tôt, mais s'aggraveront avec le temps pour finir avec une surdité quasiment totale. Beethoven tentera même de se suicider plusieurs fois, et il y aura également en 1802 son fameux testament d'Heiligenstadt qu'il rédigeait dans la ville du même nom qui est située dans la banlieue de Vienne. Ce testament est une lettre manuscrite de Beethoven à ses frères, Karl et Johann, écrite le 6 octobre 1802. Le compositeur avait été envoyé à la campagne pour reposer ses oreilles sur conseil de son médecin, le docteur Schmidt. C'est un document historique, témoignage inestimable dans la vie de Beethoven, puisque le musicien exprime son désespoir devant sa surdité et la nécessité qui en découlait de devoir s'isoler de la société viennoise. Beethoven tenait à garder sa surdité secrète. Mais il sortit victorieux de cette crise, résolu à affronter son destin plutôt que de s'abattre. Cela donnera naissance à une période héroïque entre 1802 et 1808, date de composition de ta 5e symphonie. J'ai vu personnellement ce testament à Vienne, au musée Beethoven d'Heiligenstadt. Une réplique existe aussi au musée Beethoven dans le centre de Vienne. L'objectif de cette émission aujourd'hui ne sera pas d'explorer toute son œuvre, elle est beaucoup trop immense. J'ai préféré limiter l'étude des œuvres de Beethoven à leurs caractéristiques principales. Celle d'être une musique de contraste, une musique d'opposition, une musique de lumière et d'ombre, un combat du bien sur le mal. Beethoven, toute sa vie, restera en tempête, en quelque sorte. Il montrera, au travers de ces contrastes violents que recèle sa musique, toutes les oppositions, toutes les contradictions de l'âme humaine. C'est pour cela que ce soir, j'évoquerai le titre « Entre ombre et lumière » et leur place capitale dans la vie de Beethoven. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Bulle 93.6, la radio de la Genève. Vous écoutez Présence du classique, l'émission dédiée à la musique classique, présentée par votre serviteur Patrick Armand. Aujourd'hui, nous évoquons Beethoven, entre ombre et lumière. Lorsque je parle de contraste ou d'opposition concernant la musique de Beethoven, le plus simple est de vous faire entendre quelques extraits. J'ai choisi quelques très courts passages de certaines de ses sonates pour piano que j'ai ciblées, de façon à ce que vous entendiez très nettement cette notion de contraste, cette notion d'ombre et de lumière, cette notion d'opposition. Nous débuterons avec le piano, nous continuerons avec l'orchestre. Voici le premier extrait. Il s'agit de sa sonate pour piano numéro 8, que l'on appelle également la sonate pathétique. Nous allons écouter le début de la sonate. Vous allez voir d'emblée que l'accord est puissant au niveau des graves, en ouverture, puis les aigus lui répondent plus calmement. Au fur et à mesure de l'audition de cet extrait, va se mettre en place une notion de contraste très nette, une notion d'opposition, d'ombre et de lumière entre les graves du piano et les aigus. Vous allez voir combien dans le grave c'est beaucoup plus martelé, beaucoup plus fort, et combien dans l'aigu c'est beaucoup plus aérien et beaucoup plus libre. Ces contrastes violents sont en quelque sorte la « marque de fabrique », entre guillemets, si l'on peut dire, de Beethoven. C'est le pianiste chilien Claudio Arrau qui nous interprète cet extrait, datant de 1974. Autre extrait dans une sonate également très connue, la sonate au clair de lune, la numéro 14. Voici un extrait du final où vous pourrez voir à nouveau l'opposition entre aigu et grave, force et douceur. Ce sera le pianiste russe Vladimir Horowitz qui nous l'interprète dans un enregistrement de 1961. Présent, vous voyez, vous vous rendez davantage compte de cette opposition et de ces contrastes. Nous avons donc parfois l'orage, la tempête, le vent, le tonnerre et les éclairs, et tantôt nous avons le ciel bleu, un soleil limpide, et puis nous revenons à la tempête, ou au temps qui se couvre, avec le vent qui se lève, et puis à nouveau le soleil paraît. Pour illustrer plus avant cette notion de contraste dont nous venons de parler, j'ai choisi le premier mouvement d'une autre sonate de Beethoven, la numéro 17, que l'on appelle aussi la sonate La Tempête, composée justement en 1802, pendant la fameuse période d'Heiligenstadt. Nous allons donc commencer par l'étude de ce premier mouvement, je vous guiderai bien évidemment comme je le fais toujours, et ensuite nous écouterons le mouvement dans son entier. Ce mouvement sera interprété par Gábor Gábos, pianiste hongrois, dans un enregistrement de 1962. L'œuvre débute par un accord égrené comme s'il s'agissait d'une harpe. Puis le premier thème s'annonce, il est fiévreux, haletant, avec des notes accentuées par groupe de deux. Puis, à nouveau, un égrènement d'accords comme le ferait une harpe. Nous pouvons donc déjà parler de contraste. Le thème que nous avons entendu avec les doubles notes effrénées s'oppose très clairement au côté beaucoup plus doux et nonchalant de l'accord égrené comme une harpe. Et voilà que maintenant, Beethoven lance sa dynamique en prenant la rythmique du premier thème que nous avons déjà entendu. Puis arrive un deuxième thème, et là, il est intéressant d'entendre immédiatement les contrastes entre les graves et les aigus qui se répondent. Les graves sont martelés, les aigus limpides et doux. Le dialogue entre la basse et l'aigu se conduit sous un accompagnement fiévreux. Le thème continue. Il aboutit à un dialogue très contrasté entre les basses qui grondent et les aigus limpides. La première partie du mouvement se termine, ce que l'on appelle l'exposition, et vous le savez, il est d'usage en général de la répéter deux fois, je l'avais précisé lors de la conférence sur Mozart. C'est un court dialogue entre les basses et les aigus. Une fois la reprise de l'exposition effectuée, nous entendons à nouveau les accords égrenés comme une harpe, cette fois-ci à trois reprises. On sent bien que Beethoven veut changer de tonalité progressivement. Puis, sans crier gare, brusquement, le thème apparaît fortissimo. Les basses sont martelées, puissantes, les aigus, doux et limpides comme d'habitude. Les basses dialoguent avec les aigus. Écoutons. Vous constaterez ici à nouveau un contraste, une opposition saisissante. Puis la dynamique s'apaise et nous retournons à un accord égrené comme une harpe. Mais cette fois-ci, le cours de la sonate va être interrompu par une mélodie très calme à la main droite uniquement, qui apparaît d'un coup comme une pause, comme une confidence. Le premier thème se fait entendre, puis à nouveau un accord de harpe. Et là, à nouveau, Beethoven nous redonne une mélodie comme suspendue en l'air et toujours à la main droite seule du piano. Nourri à présent de ce nouvel éclairage, de cette nouvelle tonalité qui lui est offerte, Beethoven choisit de faire repartir la sonate dans son tempo original avec des groupes de quatre accords doux mais profonds, puis des vocalises exécutées par la main droite. Écoutons. Puis, à nouveau le contraste entre les basses martelées et les aigus plus limpides. Ce qui aboutit progressivement à la fin du premier mouvement, qui se termine d'une façon très douce. Un simple accord. Les basses grondent une dernière fois, mais cette fois-ci très doucement. Et les deux derniers accords, très doux, arrêtent le mouvement. ressent l'impression que les graves ont été domptés. Fin momentanée de la lutte du bien contre le mal, de la lumière contre l'ombre. Nous écoutons donc ce premier mouvement de la sonate numéro 17, La Tempête de Beethoven, par Gábor Gábos, pianiste hongrois, dans un enregistrement de 1962. C'était le premier mouvement de la sonate numéro 17, La Tempête de Beethoven, par Gábor Gábos, pianiste hongrois, dans un enregistrement de 1962. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Bulle 93.6, la radio de la Genève. Vous écoutez Présence du classique, l'émission dédiée à la musique classique présentée par votre serviteur Patrick Armand. Aujourd'hui, nous évoquons Beethoven entre ombre et lumière. À présent, nous allons passer à la musique symphonique chez Beethoven. C'était un compositeur qui a écrit, certes pour le piano, puisqu'il était avant tout au départ un pianiste. Il a également écrit des sonates pour piano et violoncelle, des trios, piano, violon, violoncelle, et des œuvres dans lesquelles le piano ne figure pas, notamment les merveilleux 17 quatuors à cordes qu'il nous a légués. Outre la musique de chambre, Beethoven était un remarquable orchestrateur, un véritable génie symphonique. Du temps de Bach et de Händel, l'orchestre était plus souvent un orchestre de chambre, c'est-à-dire un orchestre avec un nombre limité, voire très limité de musiciens, sauf bien sûr, exceptionnellement, dans de grandes œuvres vocales. Par la suite, lorsque Mozart et Haydn ont eu leur période de gloire, l'orchestre était un peu plus développé. Il y avait eu de considérables progrès entre-temps pour la fabrication des instruments de musique et leurs possibilités qui se retrouvaient accrues. Lorsque Beethoven est apparu, le style de cette époque-là était surtout très orienté vers Mozart et Haydn, et ses premières compositions vont forcément en subir l'influence. Mais très vite, et au fond en très peu d'années, Beethoven va finir par imposer son propre style. Chez Beethoven, l'orchestre va être beaucoup plus développé. Nous avons parlé de contrastes, parfois de contrastes très violents, qui pouvaient se produire dans sa musique, mais nous l'avons vu jusqu'à présent dans sa musique pour piano. Pour l'orchestre, c'est tout autre chose, car l'orchestre lui-même développe de plus grandes forces que ne peut, bien sûr, développer un instrument soliste, même le piano. Si l'on parle tout d'abord des bois, c'est-à-dire les bassons, les clarinettes, les hautbois, les flûtes, un système de clés, c'est-à-dire un système permettant de boucher ou de déboucher un plus grand nombre de trous sur la surface de l'instrument, accroît leur étendue. Pour les cuivres, le corps va posséder peu à peu des pistons. Il en ira de même pour la trompette et pour le trombone, instrument récent encore dans l'orchestre à cette époque. Qu'entraîne alors tout ceci? Le pupitre des vents, les bois plus les cuivres, va se retrouver du coup beaucoup plus développé, mais de fait beaucoup plus sonore. Avant, on trouvait deux bassons, deux clarinettes, deux hautbois, deux flûtes, avec deux cors et éventuellement deux trompettes. Mais maintenant que Beethoven souhaite avoir un renforcement de ces postes-là, on trouvera désormais bien souvent dans une configuration qui sera supérieure, 3 à 4 bassons, 3 clarinettes, 3 hautbois, 3 flûtes par exemple. On aura au moins 3 ou 4 cors, idem pour les trompettes. Je ne parlais pas des percussions, alors qu'il y avait un timbalier, parfois il peut y en avoir 2 désormais. À ce déluge de sonorités qui sera amené par les vents, il va falloir tout naturellement opposer une force chez les cordes. C'est ainsi que chez les postes de premier et second violon, alto, violoncelle, contrebasse, le nombre des instrumentistes va augmenter. Désormais, on se trouvera fréquemment avec 10, 12, 14, parfois 16 premiers violons, idem pour les seconds violons, une douzaine ou une quatorzaine d'alto, une huitaine à minima, mais souvent une dizaine, de douzaine même, de violoncelles, et nous nous retrouverons avec 4 contrebasses minimum, mais souvent 6, parfois 8. C'est ainsi que pour les grandes œuvres symphoniques de Beethoven, les symphonies qui sont à partir principalement de la symphonie numéro 3 à l'héroïque, et au-delà, et certaines très grandes œuvres, telles que par exemple la Missa Solemnis et j'en passe, nous aurons désormais des formations allant à minima de 65-70 musiciens jusqu'à 80-90 et pourquoi pas 100 dans certaines œuvres. Lorsque l'on parle des contrastes, des oppositions, vous imaginez bien qu'avec de pareilles forces à manier, les contrastes vont être très marqués, saisissants et puissants. C'est cet aspect-là que je vous propose d'écouter maintenant. J'ai choisi tout d'abord l'ouverture de Coriolan. Au départ, Coriolan vient d'une tragédie d'un poète, Heinrich von Collins. Elle était représentée par le passé avec une musique de scène simple et relativement sommaire qu'un copiste très féru de musique, l'abbé Stadler, avait découpée dans un opéra de Mozart, Idomeneo. La tragédie prend essence dans l'histoire romaine. Coriolan, qui s'est couvert de gloire à la tête des armées romaines, se heurte dans sa patrie à une opposition que son immense orgueil ne peut supporter. Il passe donc au service ennemi, les Volsques, et entreprend de détruire Rome. Il va chasser tous les parlementaires, les messagers, pour demander une paix. Mais en désespoir de cause, sa mère et sa femme l'implorent et réussissent finalement à le fléchir. Il s'éloigne alors à jamais et il ramène avec lui les troupes Volsques. Beethoven décide de composer une ouverture, qui nous intéresse d'autant plus parce qu'elle date de 1807, donc pendant la fameuse période entre 1802 et 1808, et bien sûr 1802, le testament d'Heiligenstadt. Commençons à présent à étudier cette ouverture. Chers auditeurs, vous êtes familiarisés maintenant avec les contrastes chez Beethoven. Voici le tout début de l'œuvre avec des contrastes saisissants. Un premier thème s'enchaîne avec des notes répétées deux à deux. Cela ne rappelle-t-il pas la sonate La Tempête ? Immédiatement, les cordes et les bois se font face et l'on entend ces fameuses oppositions. Puis, de façon très élégiaque, le deuxième thème nous est proposé, très chanté. On devine un orage qui commence à germer, on entend les prémices et on le devine. Le climat est appelé à changer, Beethoven le fait changer ainsi. Et encore ici, avec des coups très incisifs des violons. Ici aussi, à nouveau présence de contraste très marqué entre les cordes et les vents. Et le deuxième thème réapparaît à nouveau. Avec la puissance qui se renforce et les contrastes dont nous avons parlé tout à l'heure. Et nous commençons à aller vers la fin de l'ouverture. Se reproduisent à nouveau les accords très tranchés, c'est-à-dire l'orchestre tient une note et puis un second accord immédiatement puissant, bref et péremptoire, lui le suit immédiatement. Mais là, Beethoven, tout comme il le fait dans la sonate La Tempête, calme les forces symphoniques pour peu à peu éteindre ces nuances très fortes. Et l'ouverture s'achève sur des réminiscences. Quelques cellules par-ci, par-là, du premier thème, jusqu'à un pianissimo total de l'orchestre, comme si encore une fois, tout ce qui était très fort, très puissant, très péremptoire et très orageux, a fini par s'éteindre au profit d'une lumière et d'une paix qui a calmé toute cette atmosphère tempétueuse. Nous allons entendre à présent l'intégralité de l'ouverture de Coriolan dans un enregistrement de 1974. L'Orchestre Philharmonique de Berlin est placé sous la direction d'Herbert von Karajan. C'était l'ouverture de Coriolan dans un enregistrement de 1974. L'Orchestre Philharmonique de Berlin était placé sous la direction d'Herbert von Karajan. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Bulle 93.6, la radio de la Genève. Vous écoutez Présence du Classique, l'émission dédiée à la musique classique, présentée par votre serviteur Patrick Armand. Aujourd'hui, nous évoquons Beethoven, entre ombre et lumière. Dernière œuvre de Beethoven que nous étudierons ici dans cette émission, il s'agit du premier mouvement de sa très célèbre 5e symphonie. Depuis le début de l'émission, nous avons progressé. Nous avons clairement identifié les contrastes, les oppositions, la lumière, l'obscurité, le combat entre les différentes forces du bien et du mal, les forces dynamiques tranchées qui existent entre le poste des bois et des cuivres, opposées aux cordes. Le premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven va nous servir en quelque sorte, comme je le fais à chaque émission, d'application générale de tout ce que nous avons vu. La 5e symphonie a été composée durant un intervalle de 3 ans, mais pas en composition continue. Les prémices de l'œuvre ont été jetées sur le papier vers le début de 1805, pendant la fameuse période dont je vous ai parlé, entre 1802 et 1808. Beethoven retouchera de temps en temps quelques mesures de ce qu'il a écrit, mais au final, composera la fin de la symphonie presque quasiment d'un seul jet. Quoi qu'il en soit, en 1808, à Vienne, avec d'autres œuvres du maître, la 5e symphonie est donnée au théâtre An der Wien, au centre de Vienne. La 5e symphonie reste à ce jour la symphonie la plus commentée avec la 9e. Les notes répétées du premier motif sont tellement célèbres que je crois qu'elles sont passées à la postérité pour tout le monde. Elles commencent par le premier thème, extrêmement célèbre, et à nouveau le contraste fort puis faible se fait entendre et se termine par 2 accords très puissants. Beethoven va ainsi insuffler au premier mouvement de cette symphonie toute la rythmique générale, le fameux « pom 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 ». Cela ne tient qu'à cela, 4 notes, qui seront développées moult fois, passeront par divers instruments et seront répétées plusieurs fois. Et voilà que le 2e thème apparaît. Par un crescendo irrésistible, Beethoven déploie toute sa puissance symphonique et conclut ainsi son exposition. Vous savez, on répète en général une 2e fois cette exposition. Je l'avais déjà rappelé dans ma première émission sur Mozart, c'était l'usage de le faire à l'époque. Voici que s'annonce le développement qui part toujours sur la même cellule rythmique, le fameux « pom, 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 pom », s'est confié principalement au corps qui entonne le début de ce développement. Puis, à nouveau, un crescendo irrésistible et une répétition de notes très puissantes. La dynamique s'apaise un peu, mais nous nous retrouvons toujours avec des contrastes entre le pupitre des cordes et le pupitre des vents. Et la dynamique première reprend pour nous amener finalement jusqu'à un retour du premier thème. Après 2 puissants accords et le hautbois solo chante quelques notes mélodieuses comme si la lumière voulait revenir. La dynamique reprend. Cette fois-ci, Beethoven va varier. Il va se servir de la puissance expressive de toutes ses notes répétées, ce qui va l'amener progressivement vers la dynamique de la fin du premier mouvement. On entend des réminiscences du premier thème, tout d'abord par les basses, violoncelles et alto, avec un contre-champ des premiers et seconds violons qui ensuite prennent la main. À nouveau, des contrastes, des oppositions entre les cordes et les vents, entrecoupées ci et là d'accords puissants. C'est alors que Beethoven suspend le temps, tout comme, souvenez-vous, dans la 40e symphonie, Mozart le faisait à la fin de son premier mouvement. Beethoven, dans les dernières mesures, conclut puissamment et de façon péremptoire ce premier mouvement de sa 5e symphonie. Vous avez pu constater tout au long du premier mouvement, et encore plus s'il le fallait, sur les derniers accords, cette autorité de l'accent beethovenien, sa puissance et la dimension de l'orchestre. Nous écoutons à présent le premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven, interprété par l'Orchestre philharmonique de Berlin, sous la direction d'Herbert von Karajan, dans un enregistrement de 1977. Thank you. Nous écoutions le premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la direction d'Herbert von Karajan, dans l'enregistrement de 1977. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Bulle 93.6, la radio de la Genève. Vous écoutez Présence du Classique, l'émission dédiée à la musique classique, présentée bien sûr par votre serviteur Patrick Armand. Aujourd'hui, nous évoquons Beethoven entre ombre et lumière. Notre émission touche à sa fin. Je revois à Vienne la tombe de Beethoven, au cimetière Währing, le monument en marbre blanc, orné d'une lyre à la feuille d'or, avec un parterre de fleurs. Je pense qu'ici, ce géant est tombé. Je me dois par respect de m'agenouiller. Et pour conclure, je citerai tout simplement l'oraison funèbre que prononça ce jour-là Heinrich Einschütz, un acteur, écrite par Franz Grillparzer, grand homme de lettres, et non pas par Schindler, comme mentionné dans le film Ludwig van B, immortel bien-aimé. Ce n'est pas Schindler qui lit l'ode funèbre de Beethoven. Voici ce qui est dit, je vous l'ai traduit directement de l'allemand. Ludwig van Beethoven, l'homme qui a magnifié l'art et la gloire immortelle de Handel et de Bach, de Haydn et de Mozart, n'est plus. Il était un artiste, qui pourra jamais l'égaler. Il était un artiste, et ce qu'il fut, il le fut seulement par la musique. Les épines de la vie l'ayant profondément blessé, il se réfugia vers son art, même quand la porte par laquelle il pouvait entrer demeurait fermée. La musique parlait au travers d'une oreille sourde qui ne pouvait plus l'entendre. Il portait la musique dans son cœur. Parce qu'il s'était coupé du monde, les gens le croyaient hostile, insensible et dur. Mais son cœur n'était pas dur. Ce sont souvent les meilleures lames qui sont les plus facilement émoussées, plié ou cassé. Il s'était retiré de ses semblables après leur avoir tout donné, sans jamais rien recevoir en retour. Il a vécu seul parce qu'il ne trouva pas son autre moitié. Ainsi il était, ainsi il est mort, ainsi il vivra jusqu'à la fin des temps. Chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Radio Bulle 93.6, la radio de la Genève. Vous écoutiez Présence du Classique, l'émission dédiée à la musique classique, présentée par votre serviteur Patrick Armand. Aujourd'hui, nous évoquions Beethoven entre ombre et lumière. Merci infiniment pour votre présence à tous et à bientôt.
Radio Bulle 93.6, c'est votre radio de la Genève.
C'est votre radio de la Genève.
Présence du Classique. Une émission présentée par Patrick Armand.